Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 en partenariat avec RFI. Nous nous intéressons à l'Union européenne et à son voisinage oriental aujourd'hui. À l'Est, beaucoup de nouveaux, c'est même la frontière Est qui inquiète le plus les Européens, car Vladimir Poutine la considère toujours comme son précaré. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui la présidente de Géorgie, un petit pays du Caucase de 3 700 000 habitants avec des territoires et un conflit gelé avec Moscou suite à la guerre en 2008. Salomé Zourabichvili, bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis la capitale, Tbilissi.
Bonjour.
Vous avez la nationalité française puisque vous êtes né à Paris où vous avez étudié pour embrasser la carrière de diplomate. Vous avez été ambassadrice de France dans votre propre pays. Après la Révolution des Roses, vous adoptez la nationalité géorgienne. Vous avez été une éphémère ministre des Affaires étrangères du président Mikhaïl Saakachvili. Aujourd'hui dans l'opposition et emprisonné depuis son retour en Géorgie. Vous avez été élue députée nationale en 2016. Puis présidente en 2018, avec l'appui du rêve géorgien, le parti au pouvoir fondé par le milliardaire Bidzina Ivanishvili.
On parlera bien sûr de votre pays, la Géorgie, mais on commence par un sujet qui préoccupe beaucoup les Européens. Le regain de tension à la frontière est de l'Ukraine, où les troupes russes sont massées. Selon Vladimir Poutine, les populations russophones de l'est de l'Ukraine souffrent d'une russophobie qui serait un premier pas vers un génocide, dit-il. Est-ce que vous le croyez capable de redéclencher une guerre à l'est de l'Ukraine ?
Je crois que c'est la question que se pose le monde entier et l'Europe d'une part, nous bien sûr avec l'expérience que nous avons eue d'un conflit direct avec la Russie en 2008, l'expérience que tout le monde a vue se reproduire en Crimée en 2014 et aujourd'hui la conversation qu'a eue le président Biden avec Poutine et très clairement la résultante de cette inquiétude qui se propage partout, qui est véhiculée d'ailleurs par la Russie, qui ne cesse pas de multiplier les déclarations sur le fait que les lignes rouges sont en passe d'être franchies, qui a massé ses troupes sur sa frontière occidentale et la frontière orientale de l'Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire si Poutine passera à l'acte ou non, c'est ça sa grande force, c'est de pouvoir ainsi multiplier les provocations et être dans une position de défiance en quelque sorte des partenaires sans qu'il y ait réellement de réponse apportée.
Madame la Présidente, alors justement, pour éviter à tout prix le conflit militaire, Joe Biden menace Vladimir Poutine de nouvelles sanctions économiques sévères. Son pays est déjà soumis à des sanctions assez importantes de la part de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ça peut le dissuader ?
Je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine et je pense que nous nous posons tous les mêmes questions. Mais une chose est de menacer de sanctions, l'autre menace, c'est que quand la menace n'est pas précisée et c'est quelquefois plus efficace que trop de précision dans ce qui risque d'arriver. On sait que la Russie résiste assez bien, peut-être pas économiquement ni socialement, mais résiste politiquement aux sanctions. Comme la plupart des régimes autoritaires savent résister aux sanctions, parce qu'en réalité, le coût pour leur population leur importe peu. Parler de sanctions, c'est sûrement brandir une menace en retour, mais est-elle efficace ?
Alors justement, Vladimir Poutine, il parle maintenant directement avec le président américain, échange téléphonique mardi. Les Européens sont-ils, selon vous, éclipsés ? Est-ce qu'ils doivent revoir leurs relations, justement, par rapport à la Russie et comment ?
Je ne pense pas qu'ils soient éclipsés. Je pense que les États-Unis sont en train de marquer progressivement qu'ils délèguent une partie des terrains à l'Union européenne. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils délèguent totalement, ça ne veut pas dire qu'ils se retirent complètement, ça ne veut pas dire qu'ils vont cesser de parler avec la Russie, on vient d'en avoir l'exemple direct, mais disons, les grands se parlent entre eux. L'Union européenne, elle est contrainte aujourd'hui de prendre davantage sa place, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire. C'est très intéressant d'ailleurs que ça se passe au moment où la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Et on sait que le président Macron est probablement parmi les dirigeants européens l'un de ceux, sinon celui qui a le plus de vision et de volonté d'avoir une vraie politique à l'Est et sur le voisinage et vis-à-vis de la Russie.
On va effectivement reparler de ce que le président Macron d'ailleurs a présenté cette semaine. Auparavant, on voudrait vous poser une question sur l'autre conflit qui inquiète beaucoup les Européens, c'est l'autre ancienne république soviétique, la Biélorussie et son autocrate Alexandre Loukachenko, accusé d'avoir attiré sur leur territoire des migrants. 7000 seraient encore présents dans le pays pour les pousser vers la Pologne. Les migrants deviennent finalement un nouvel instrument de guerre hybride.
Tout à fait. Ce n'est pas totalement nouveau, mais c'est un instrument qui est en train d'être mobilisé davantage. Moi, pendant la crise la plus aiguë, j'ai eu une conversation avec le président Duda pour manifester notre solidarité dans cette période très difficile. Et c'est effectivement quelque chose aussi à quoi l'Union européenne va être obligée de répondre. Les défis sont énormes aujourd'hui pour l'Europe et pour nous, les associés, les voisins de l'Europe, les associés et ceux qui sont sur cette ligne d'intégration européenne. Les défis, ils sont multiples. On vient de parler de la Russie et de son bruit de botte. Ce bruit de botte, chez nous, il est présent aussi. C'est de moins visible parce que ça dure depuis plus longtemps, mais sur notre non-frontière avec les territoires occupés par la Russie, c'est constamment que nous avons des otages qui sont enlevés, cette espèce de jeu avec une frontière qui n'existe pas, mais pour essayer de la rendre comme quelque chose de déstabilisant. Heureusement que nous avons là l'Union européenne présente à travers sa force de surveillance, qui évidemment n'est pas une force qui est active militairement, mais qui au moins établit un minimum de présence, de sécurité, de surveillance de ce qui se passe sur cette ligne de délimitation de non-frontières que nous avons et qui est une blessure au milieu du territoire géorgien.
Vous avez d'ailleurs vous vous rappeliez très bien, au cœur de cette guerre en 2008 avec la Russie, Vladimir Poutine a soutenu et reconnu les provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. C'est un conflit gelé. Le président de l'époque était un certain Mikhaïl Saakachvili, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Il y avait aussi un président du Conseil de l'Union européenne qui était Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous estimez que ce conflit a été mal géré avec Moscou dans votre pays et par l'Union européenne ?
Non, parce que moi j'ai toujours dit et répété que dans ce conflit, Nicolas Sarkozy a joué un rôle utile à un moment où personne d'autre n'aurait pu donner en quelque sorte à Moscou, qui était à l'époque, je le rappelle, à double tête, c'était Poutine et Medvedev, qui étaient en charge tous les deux. Et à ce moment-là, personne, aucun d'entre eux, n'aurait pris sur lui de donner l'ordre aux militaires d'arrêter leur incursion en Géorgie et serait arrivé jusqu'à la capitale. Sarkozy n'a pas réglé le problème, mais il a donné la possibilité, disons le face-saving, à ce moment-là, à Moscou de s'arrêter, qui en soi, pour eux, il n'y avait aucun intérêt véritable à aller jusqu'au bout, mais il y avait la force de l'inertie militaire, qui est quelque chose qui est très ancré et bien ancré en Russie. Alors, je crois qu'il a joué son rôle. Évidemment, il n'a pas résolu le conflit.
Mais Saakachvili, non, vous dites. Mais Saakachvili a fait des erreurs. Lui a été trop va-t-en-guerre.
En tout cas, il n'a pas écouté les mises en garde multiples et répétées des Américains qui venaient pratiquement tous les deux mois en Géorgie, ni des Européens, mais surtout des Américains qui, à ce moment-là, étaient très présents et qui disaient surtout « il faut résister, il y a des provocations ». Le conflit avec la Russie, il a été commencé et il a continué. En réalité, ce que je dis toujours, le conflit avec la Russie, il avait commencé bien avant, déjà en 1921, quand la Russie a occupé déjà la Géorgie, et en 1801, quand l'Empire russe a déjà, à ce moment-là, occupé et annexé la Géorgie. Et notre problème, je dirais, éternel et essentiel, est que nous sommes un tout petit pays à côté d'un empire qui ne cesse d'être impérial et agressif et avec lequel nous n'avons pas les moyens de nous mesurer militairement très clairement. Donc nous devons être plus intelligents que la force que nous n'avons pas.
Emmanuel Macron a présenté ce jeudi les idées qu'il entend défendre pour la présidence de l'Union européenne, qu'il assume pour 6 mois à partir du mois de janvier. Son mot d'ordre, relance, puissance, appartenance. C'est surtout l'Europe puissance qui nous intéresse aujourd'hui comme pays du voisinage Est, qui vous intéresse, vous. On écoute le président français.
Il nous faut aujourd'hui entrer dans une phase plus opérationnelle, définir pour nous, Européens, nos intérêts communs et une stratégie partagée dans un monde de menaces et de risques. Et donc, nous allons ainsi définir et porter ensemble une analyse commune de ces menaces, porter des ambitions nouvelles en matière d'industrie de défense, acter aussi d'exercices conjoints, de définir nos partenariats conjoints.
Salomé Zourabichvili, alors une Europe de la défense qui ne ferait pas doublon avec l'OTAN, l'alliance à laquelle votre pays souhaite adhérer, est-ce que ce serait une bonne chose?
Oui.
À 100%.
Ça fait très longtemps que je le pense, et je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Nous avons besoin d'une Europe qui ait une volonté politique, c'est ça la puissance, qui est doublée. Alors il y a d'un côté l'OTAN qui est un des moyens aussi pour les Européens d'agir et d'avoir en plus dans certains domaines des moyens propres ou complémentaires, et ça c'est extrêmement utile. Je note que pour la première fois, l'Union européenne nous donne une assistance financière pour les besoins de défense à l'Ukraine, à la Moldavie et à la Géorgie, donc aux 3 pays du trio des associés. Et ça aussi, c'est une toute première et c'est en termes symboliques extrêmement important. Moi, je dois noter que ce que nous avons vu en dépit du fait que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, comme je l'ai dit, et que les défis sont multiples et sont dans tous les domaines, cette année, elle a été marquée pour nous par une plus grande présence européenne. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est venu 3 fois en Géorgie. Il est venu s'occuper de la crise politique intérieure géorgienne, ce qui n'est jamais vu. Il est venu assister en personne au sommet de Petra, qui était le sommet des 3 leaders, justement, des pays associés de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, que nous avons tenu à côté de Batoumi cet été. Il a aussi été visiter l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où l'Union européenne n'a malheureusement pas joué au départ de rôle dans le règlement du conflit, mais il est venu montrer que l'Union européenne ne resterait pas extérieure au règlement de ce conflit. Les sommes qui vont être mises en place à partir de cette année par le partenariat oriental et dont le prochain sommet va aussi préciser les contours, pour les infrastructures, pour la connectivité, ce sont des sommes importantes et c'est un engagement important de l'Union européenne. Cela au moment où se déroule aujourd'hui même à Moscou le sommet dit des 3+3, qui en réalité est 3+2 puisque la Géorgie ne participe pas. Et nous avons dit très clairement que nous sommes ouverts à toutes les infrastructures, à tous les projets, tout ce qui peut faire de la région du Caucase une région de stabilité et de rencontre et de développement économique, mais rien sans l'Europe.
Mais précisément, Madame la Présidente, justement, à ce sommet du 15 décembre que vous mentionnez, la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine, les Européens vont leur donner un certain nombre d'encouragements, mais selon des fuites, ils n'auraient pas reconnaissance de leur perspective d'adhésion à l'Union européenne. Ça vous déçoit ?
Non, parce que si on est réaliste et si on sait ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne, on sait que la question politique de décider et de donner un encouragement de plus politiquement et de dire oui, vous avez une perspective, de dire ce oui, c'est une décision politique qui engage l'ensemble des pays membres et qui, pour des raisons politiques internes à l'Union européenne, ne sera pas prise aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons le droit de continuer à considérer que c'est une perspective. En 2024, la Géorgie a déjà annoncé qu'elle présenterait formellement sa candidature. En attendant, nous avons poussé tous les feux sur tous les secteurs d'intégration et nous avons marqué hier justement l'adhésion de la Géorgie comme membre associé à Horizon Europe, ce qui est extrêmement important. Ce sont tous ces secteurs-là qui vont nous permettre de rentrer dans l'Union européenne, je crois que je l'ai déjà dit avec vous, et de rentrer jusqu'au point où un jour l'Union européenne découvrira que nous sommes dedans et non pas dehors. En tout cas, c'est une forme de coopération très avancée, mais qui passe aussi par des efforts supplémentaires de notre part.
Très bien.
Nous avons besoin d'aller plus loin dans la réforme de la justice. Nous avons besoin d'aller plus loin dans les réformes sociales et dans les réformes économiques. Nous avons beaucoup d'engagement.
Et gérer la crise politique aussi, Madame la Présidente.
La crise politique.
Salomé Zourabichvili, on a une question politique, bien sûr, à vous poser, parce que ça fait beaucoup de bruit dans le monde occidental. Alors, le retour de M. Saakachvili, qui vivait en Ukraine, en exil, depuis 8 ans. Alors, à son retour, il est emprisonné, il fait une grève de la faim. Ça donne une très, très mauvaise image de la démocratie géorgienne. Vous estimez que cette affaire a été mal gérée ?
Compris d'un ex-président qui est devenu ukrainien, qui est toujours ukrainien et qui rentre par des voies détournées illégalement dans ce pays. Il contribue à raviver une instabilité politique à un moment où on n'en a pas besoin. D'ailleurs, il a été largement découragé de faire cette démarche par un certain nombre de nos partenaires. Il n'a pas écouté. Donc, c'est très mauvais. Les images sont très mauvaises. Il reste que le plus mauvais et le plus problématique pour la Géorgie aujourd'hui, c'est la polarisation politique, et il ne fait que rajouter à cette polarisation politique. C'est pour ça que c'est une démarche qui n'est pas responsable de mon point de vue, mais ça c'est mon jugement.
L'OSCE parle quand même d'une campagne remportée les dernières élections municipales par le parti au pouvoir Rêve géorgien, avec quand même des intimidations et avec des préoccupations sur la bonne conduite de ces élections.
Oui, non, je ne crois pas. Non, les jugements des organisations qui ont fait l'observation des élections n'ont pas été du tout négatifs. Au contraire, l'administration électorale et la réforme électorale qui a précédé et qui était d'ailleurs sur la base des recommandations de l'ODIHR ont donné des résultats, et l'administration électorale a au contraire reçu des appréciations. Ce qui est important, encore une fois, c'est pas le fait que les élections se soient mal passées, c'est que ça, nous restons, en dépit des élections, en dépit des efforts de Charles Michel, dans une situation d'extrême polarisation. Et moi, je vous recommande d'écouter le discours que j'ai enregistré pour le sommet de la démocratie, et dans lequel, parmi les engagements que la Géorgie prend au terme de ce sommet, et qui sont encore une fois la justice, continuer la réforme électorale et l'approfondir, moi je prends un engagement à titre de président de la République, et ce n'est pas un engagement du gouvernement, c'est le mien, c'est maintenant de commencer un processus de réconciliation, de vérité et de justice, qui est un parcours qu'un certain nombre de pays ont parcouru avant, et qui est, à mon sens aujourd'hui, absolument indispensable pour la Géorgie, pour toutes les perspectives qu'elle veut se voir ouvrir, y compris celle de l'Europe.
Merci, Madame la Présidente. Pour terminer, très brièvement, un mot sur la situation dans votre pays face au Covid. Est-ce que vous êtes satisfaite de la solidarité européenne dans l'approvisionnement en vaccins ?
Ça a tardé. Malheureusement, aujourd'hui, la question n'est plus la solidarité en termes de vaccins. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons, comme un certain nombre d'autres pays européens et d'autres pays dans le monde, un problème avec les anti-vaccins. Et qu'en réalité, nous avons aujourd'hui presque plus de vaccins que de candidats à la vaccination. Et ça, c'est un autre des grands défis que nous avons aujourd'hui, et qui est commun, encore une fois, à beaucoup d'autres pays de par le monde, mais que nous devons aussi, là aussi, nous sommes divisés.
Merci à vous, Salomé Zourabichvili, d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir et à très bientôt à tous sur nos antennes.
Cool.